Amnesty International vient de publier un rapport basé sur une analyse des données open source, des photos et vidéos qui ont été publiées par les groupes armés dans le cadre de leur propagande depuis 2018. Donc on parle ici des groupes armés djihadistes comme l'État islamique dans le Grand Sahara et le groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans, mais aussi aux groupes d'autodéfense comme Dana Ambassago au Mali et les Kogluwego et volontaires pour la défense de la patrie au Burkina Faso. Au terme de cette analyse, nous avons pu noter que beaucoup de ces groupes disposaient d'armes, de fusils et de mitrailleurs provenant de la République tchèque, de la Serbie et de la Slovaquie. Parmi ces armes, notamment au Burkina Faso, on a pu noter des armes assez sophistiquées, donc détenues par ces groupes armés, notamment des fusils mitrailleurs Zastava, qui est une entreprise serbe. Et on sait que durant ces dernières années, le gouvernement burkinabé a eu des accords commerciaux avec l'entreprise Zastava. Il y a plusieurs hypothèses de travail. D'abord, par le biais du commerce légal d'acquisition d'armes des gouvernements nationaux qui achètent des armes auprès de ces revendeurs-là ou bien de ces manufacturiers. Pour le cadre des groupes d'autodéfense, les armes peuvent se retrouver entre leurs mains dans le cadre des circuits commerciaux illégaux qui existent dans la région et qui sont souvent issus de la diversion des stocks d'armes des gouvernements nationaux, mais aussi potentiellement du fait que certaines de ces armes n'ont été données par les membres des forces de défense et de sécurité, et ce potentiellement sans la connaissance ou l'aval du commandement central. Parmi certaines de ces photos, on a pu noter une unité d'élite de la gendarmerie nationale du Burkina Faso qui disposait des derniers modèles des fusils mitrailleurs Zastava et qui était en train de poser avec des membres des volontaires pour la défense de la patrie, qui sont un groupe supplétif de l'armée burkinabé composé essentiellement d'anciens miliciens Kogluwego. Pour les groupes armés djihadistes comme le groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans et à l'État islamique dans le Grand Sahara, une hypothèse de travail est que ces armes-là aient pu tomber entre leurs mains suite à leurs attaques qu'ils ont commises contre les forces de défense et de sécurité du Burkina, du Mali et du Niger. Au tournant 2019-2020, on a vu une série d'attaques impressionnantes contre les postes avancés de ces forces armées-là le long de la zone des trois frontières, et il est possible que plusieurs de ces mitrailleurs-là aient pu être acquis par ce biais-là. Et souvent, dans leur propagande qu'ils diffusent, ils montrent les armes saisies à la suite de contacts avec les armées nationales du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a pu voir certaines de ces armes.
Vous avez évoqué le fait que les armes viennent de plusieurs pays. Mais pourquoi votre rapport mentionne spécifiquement la Serbie?
Le rapport parle spécifiquement de la Serbie parce qu'on a noté une prolifération de fusils mitrailleurs Zastava dans les possessions de ces groupes armés-là. Et ce sont des fusils mitrailleurs assez récents. Donc ce ne sont pas des vieilles armes yougoslaves comme on a pu le noter dans plusieurs conflits d'Afrique de l'Ouest, mais ce sont des armes de fabrication récente et ils sont issus d'accords commerciaux souvent entre ces manufacturiers-là et les gouvernements des États sahéliens. Et donc le fait que ces armes Zastava-là, qui sont très prisées, soient présentes parmi les groupes armés d'autodéfense et les groupes armés extrémistes violents, montre qu'il y a une nécessité pour ce pays, la Serbie, et pour cette entreprise Zastava, de revoir leur politique de commerce des armes et de s'assurer qu'il y a une conformité et des protocoles soient mis en place pour bien contrôler le flux de ces armes afin qu'ils ne servent pas à des abus des droits humains.
Le fait que les groupes armés récupèrent, disons de façon illicite, des armes, cette situation a quel impact dans le Sahel ?
Cette situation a un impact très négatif dans le Sahel parce que depuis 2017, on assiste d'année en année à une augmentation des morts civiles au Sahel. Donc le conflit et l'insurrection dans le Sahel a de plus en plus d'impact sur la protection des populations civiles. Au début de cette année 2021, on a vu une escalade dans ces violences contre les populations civiles, notamment lors des attaques de Tchomo-Bangou et de Zaroum-Daré au Niger, où l'État islamique dans le Grand Sahara a exécuté 103 civils dans la région de Tidal. Et aussi au Burkina Faso en juin 2021 à Solan, où une attaque d'un groupe armé a causé la mort de près de 137 civils et entraîné à la chute du ministre de la Défense. C'était le massacre le plus important depuis le début de l'insurrection au Burkina Faso.
Est-ce que ça se limite qu'à ces deux pays-là?
Ça ne se limite pas à ces deux pays-là. Toujours dans la zone des trois frontières au Mali, il y a quelques semaines, on a noté l'attaque contre les populations civiles du cercle d'Ansongo qui a causé près d'une quarantaine de morts. On voit que c'est cette prolifération d'armes-là qui impactent négativement sur l'intégrité physique des populations civiles.
Que faire pour que les armes ne se retrouvent pas entre les mains des groupes armés?
C'est une réponse qui est à plusieurs niveaux, non seulement des États de la région, des États importateurs, mais aussi de leurs partenaires au sein de la communauté internationale. Donc les États importateurs, comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, doivent s'assurer que leur stock d'armes et leur arsenal est bien protégé et qu'il n'y a aucune fuite ou de mécanisme qui permette leur diversion et leur accession par les groupes armés, que ce soit les groupes armés d'autodéfense ou les groupes armés extrémistes violents. Ils doivent aussi diligenter leur politique en matière de circulation des armes dans leur pays et s'assurer que les flux d'armes sont beaucoup mieux contrôlés. C'est un défi très important parce qu'il y a des défis en matière de contrôle du territoire, mais c'est un défi qu'il faut tout du moins affronter et essayer de surmonter à l'heure actuelle, vu l'impact sur les populations civiles.
Et au niveau des pays exportateurs?
Au niveau des pays exportateurs, je pense qu'il est très important pour eux de reconsidérer leur politique commerciale, notamment lorsqu'ils savent que les armes qu'ils vendent légitimement à des gouvernements de la région peuvent se retrouver entre les mains de groupes armés et contribuer à des attaques contre les populations civiles innocentes. Donc, s'il n'y a pas de protocole qui est mis en place par ces gouvernements-là, conformément au droit international, ils devraient reconsidérer leur politique et peut-être même suspendre toute vente d'armes aux gouvernements nationaux si ces ventes d'armes-là permettent la perpétuation d'abus des droits humains.